Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Mercredi 3 mai 2023. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio de la Paix. À la une de ce journal, le FPI et le RHDP ont signé un accord de partenariat portant sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. C'était hier mardi 2 mai à Abidjan. Les précisions avec le secrétaire général du FPI, Issiaka Sangaré, dans une poignée de secondes. Discussion tripartite entre gouvernement, secteur privé et centrale syndicale sur la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels. Le Premier ministre a annoncé une augmentation de 9 à 18%. Les explications concrètes de cette manœuvre avec le président de la centrale syndicale, plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, Zadi Nyanya. Dans l'actualité internationale, une dizaine de civils a été tué dans le nord-ouest du Bénin dans la nuit de lundi à mardi. Des tueries perpétrées par des individus non encore identifiés. Et la revue des titres de vos journaux ivoiriens parue ce mercredi sera l'affaire de Francis Cassis ce matin. Dans l'invité de la rédaction, il s'agira de la représentativité des femmes sur le listing des candidats aux élections locales de 2023 des partis politiques. Koulibaly Pélibien Ghislain, sociologue spécialiste des questions de genre, avec Carlos Condé, analysera cette faible présence. Bienvenue à tous. Afinguessan a signé hier mardi 2 mai 2023 le protocole d'accord pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie avec le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, Cissé Bakongo. Le leader du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguessan, très critique autrefois envers le pouvoir, affirme que sa démarche fait écho à l'envie de paix et au puissant désir de paix de ses compatriotes. Le contenu de cet accord nous est lu par Issiaka Sangaré, secrétaire général du FPI.
Les signataires du partenariat s'engagent à œuvrer conjointement dans le respect de leurs différences et de leur autonomie à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale et à l'approfondissement de la démocratie. Les signataires s'engagent à mener sur le terrain des actions de sensibilisation des populations et de promotion des valeurs de tolérance, de paix et de cohésion nationale. S'interdisent à cet égard toute posture, tout propos et tout acte susceptible de contrarier le processus de réconciliation nationale et de nuire à la cohésion sociale. S'engagent à soutenir toutes les initiatives de réconciliation nationale, à contribuer à l'apaisement des cœurs et à surmonter les meurtrissures du passé en vue de la reconstruction du tissu social et du rétablissement de la confiance entre les fils et les filles du pays. Les signataires conviennent d'agir en faveur d'un accès équitable à l'information, s'engagent à soutenir les efforts du gouvernement en faveur d'une justice indépendante, impartiale et crédible, de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, conviennent de conclure, si nécessaire, des accords électoraux à l'occasion des différentes consultations électorales. Les signataires conviennent de la mise en place d'un cadre de concertation en rapport avec la réalisation des objectifs qu'ils se sont fixés.
Et en présence des membres de la direction de leurs deux partis respectifs, l'ancien Premier ministre Pascal Afinguessan a tenu à faire quelques précisions. Il a ajouté notamment que dans le cadre de cet accord, le FPI et le RHDP travailleront à conforter la réconciliation nationale, la cohésion et la démocratie, également l'apaisement des cœurs. Le président du FPI a toutefois tenu à préciser également que la signature de cette convention n'exclut pas la concurrence entre les deux partis. Chacun continuera à défendre ses idées, son projet, a clarifié le candidat du FPI au régional dans le Moronou.
Souvent, les apparences sont trompeuses et il faut toujours aller au-delà des apparences. À travers des situations judiciaires liées aux crises passées, dans les discours et les postures politiques, nous notons que les plaies ne sont pas toutes cicatrisées parce que nous n'avons pas su aller au bout d'un processus de réconciliation nationale inclusif et sincère. Certes, la Côte d'Ivoire ne brûle pas, mais les braises ne sont pas éteintes. Et tant qu'il reste une braise, chacun le sait, le feu peut repartir si certains soufflent habilement. Nous pensons qu'il y a urgence. Urgence, car nous voyons autour de nous la tentation inverse, celle d'instrumentaliser les souffrances au service d'un agenda politique, celle de souffler sur les braises de nos anciennes divisions, pour faire de cette réconciliation une réalité ancrée dans la durée. Nous devons sensibiliser les populations à ces enjeux. Ce sera notre mission. Nous l'accomplirons les uns et les autres lors de nos tournées et dans tous les actes de la vie politique.
Vous écoutiez à l'instant le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Afine-Guessant, et juste avant lui, le secrétaire général du parti, Issiaka Sangaré, tous deux au micro de Matatouri. Et puis, toujours parlant de la vie des partis politiques en Côte d'Ivoire, le MGC, le mouvement des générations capables, avec à sa tête l'ex-première dame Simone Gbagbo, était les 29 et 30 avril dernier à Boaké pour la première édition de la Fête des Libertés. L'ex-première dame en a profité pour demander pardon aux victimes des crises politiques. Le reportage est signé Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
La présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables, précise le choix de la ville de Boaké pour abriter la première édition de la Fête des Libertés. Simone et Yves Gbagbo.
Premièrement, pour commémorer une date, le 30 avril 1990, la proclamation du multipartisme dans notre pays par le président Félix Tshisekedi. La deuxième raison est que Boaké est la ville où la rébellion a démarré. C'est donc ici même que l'âme de la Côte d'Ivoire doit réintégrer la Côte d'Ivoire.
D'autre part, la présidente du MGC rappelle les crises que la Côte d'Ivoire a connues, non sans reconnaître sa part de responsabilité dans ce passé douloureux.
Nous avons notre part de responsabilité dans la crise que notre pays a traversée. À ma double qualité de haut responsable du FPI, parti au pouvoir d'alors, et de première dame au moment des faits, je tiens encore une fois à demander pardon à toute la nation, à tous ceux qui ont subi des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des biens, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs emplois, qui ont été contraints à l'exil. J'exhorte tous les responsables politiques de la Côte d'Ivoire à me suivre dans cet exercice. Moi, j'accorde mon pardon à tous ceux qui ont causé du tort à la nation ivoirienne, à ma personne même.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Célébration ce mercredi 3 mai 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse ici en Côte d'Ivoire. Les festivités se poursuivent aujourd'hui. La manifestation officielle est prévue ce matin à la Maison de la Télévision ivoirienne en présence de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, du représentant résident de l'UNESCO, de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, puis du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Et en prélude à la 30e édition prévue aujourd'hui, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a organisé hier une conférence publique à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Cette conférence a été animée par plusieurs acteurs du monde des médias en Côte d'Ivoire autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Et pour revenir à la fête du travail célébrée le 1er mai dernier, à cette occasion, le Premier ministre Patrick Kachi a annoncé une augmentation de 9 à 18% de revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels dans le secteur privé. La centrale syndicale Plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire affirme que les négociations se poursuivent pour une prise en compte de tous les secteurs d'activité. Là-dessus, retrouvons son président Théodore Zadignania.
Les négociations entre les partenaires sociaux et le patronat, d'une part, et d'autre part, le gouvernement, ont pu donner une augmentation qui va de 9% à 18%. Ces augmentations-là se font selon les secteurs d'activité. Quand on prend, par exemple, l'industrie textile, c'est une augmentation de 13%. Quand on prend l'industrie de transformation du thon, on est à 15%. Dans le secteur pétrolier, nous sommes à 10% d'augmentation des salaires minimum. Dans le commerce, le textile, les négoces, nous sommes à 11%. Dans l'industrie du bois, nous sommes à 11%. Et dans l'industrie mécanique, à 12,5%. Les négociations continuent pour que tous les secteurs soient impactés. Mais le minimum de ces négociations, c'est 11% qui a été arrêté comme, je dirais, moyenne des augmentations. Et le gouvernement, d'ailleurs, a annoncé que des secteurs ont été ajoutés, notamment le secteur de l'éducation-formation, le secteur privé de l'éducation. L'éducation confessionnelle et l'éducation laïque ont été ajoutés parce que ce sont des secteurs où les enseignants s'ouvrent beaucoup. Le secteur de la communication, comme le secteur agricole, les négociations se poursuivent parce que là-bas aussi, nous avons le SMAG qui, pour le moment, n'a pas encore connu une augmentation. L'incident, c'est qu'il y aura une légère augmentation, des frémissements au niveau des salaires, au niveau du privé. Donc forcément, cela va agir sur leur niveau de vie.
Théodore Zadignagnan, président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, une centrale syndicale. Éducation, pour protester contre ce qu'elle qualifie d'entrave au bon déroulement des enseignements dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a entamé hier mardi une grève. Sur le terrain, la situation est plutôt mitigée, mi-figue, mi-raisin, selon le constat de Junior Cardin.
Le dysfonctionnement du nouveau système d'inscription dans les universités publiques, l'instauration d'un test de sélection entre la licence et la maîtrise, la dégradation avancée de certaines infrastructures universitaires, le prélèvement injustifié de 3500 francs CFA pour la confection des cartes d'étudiants dans les universités et grandes écoles privées sont entre autres les raisons qui ont conduit la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, à lancer un mot d'ordre de grève à compter de ce mardi 2 mai. Nous avons fait le tour de quelques établissements d'Abidjan afin de nous rendre compte du niveau d'observation de cette grève. Si la grève est effective à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où nous avons trouvé des salles vides et les étudiants en petits groupes avec l'air de personnes aux aguets, et dans certaines grandes écoles de la Riviera 2, par exemple ESMA, école de spécialité multimédia d'Abidjan, la situation est tout autre dans la plupart des établissements scolaires et grandes écoles d'Abidjan. Du groupe scolaire Riviera Golf aux grandes écoles CBCG et Célia Trècheville, en passant par le grand groupe scolaire Nord d'Abobo, le collège Voltaire de Marcoury, le lycée moderne de Cocody et même le lycée moderne d'Azagué, aucune perturbation n'a été constatée. Les cours se sont déroulés normalement ce mardi 2 mai. Dans tous les cas, aux abords de plusieurs écoles, nous avons remarqué la présence de cargos de la police et de la gendarmerie nationale, postés certainement pour la sécurisation des élèves désireux d'aller à l'école. Malgré toutes les tentatives, plus d'une heure et demie d'attente dans les bureaux de la FESI, nous n'avons pas pu obtenir d'interlocuteur pour aborder cette question liée à cette première journée de grève de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire.
Dans l'actualité sous-régionale, une dizaine de civils a été tuée par des assaillants dans le nord-ouest du Bénin. Ces personnes ont été tuées à Kérou dans la nuit de lundi 1er à mardi 2 mai 2023 à environ 600 km de la capitale béninoise Cotonou. Les habitants endormis ont été surpris et assassinés sauvagement. Le bilan évolue à chaque découverte et mardi soir, les chiffres qui circulaient donnaient une douzaine de civils enlevés et tués. Une source locale ajoute à ce bilan des disparus, mais elle n'a pas précisé leur nombre. Les assaillants seraient également partis avec du bétail, selon des sources de Radio France Internationale. Et nous retrouvons Francis Cassi pour la revue des titres de vos quotidiens de ce mercredi 3 mai 2023. Bonjour Francis.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Le landerneau politique ivoirien en pleine recomposition à en croire des formats de collaboration que des partis entendent avoir. Et ce sera le sujet phare de notre revue des titres des journaux de ce mercredi. Et à ce propos, nombre d'entre eux apprennent que quelque chose s'est passé hier entre le RHDP et le FPI. Notamment le quotidien Le Soir ivoirien avec cette une. Pour la réconciliation et la paix, RHDP et FPI signent un accord de partenariat, ainsi que le Patriote titrant également, signature hier d'un accord de partenariat RHDP-FPI, main dans la main. Et on pourrait dire que notre voix, tellement content de cette signature d'hier, barre absolument sa une avec le sujet écrivant. Le FPI et le RHDP ont signé hier un accord de partenariat. Merci pour la Côte d'Ivoire. Et l'expression, lui, a ce commentaire. Partenariat RHDP-FPI a fait donner une leçon à Gbagbo et Bédié. Pendant que le matin attribue au président du FPI cette phrase-ci. À ceux qui rêvent, je dis que la vengeance est une voie sans issue. Quand, sur le même sujet, le sursaut fait lire ceci à sa une. Politique nationale RHDP-FPI, voici le contenu du partenariat. Mais à contre-courant de tous ces précédents journaux, le nouveau réveil pousse à part à ce titre critique et interrogateur. RHDP-FPI, une alliance par défaut. Qui apportera quoi à qui? Autre cas de collaboration entre partis, et c'est avec le quotidien d'Abidjan qui dit « Alliance politique, un mouvement politique rejoint le parti de Gbagbo ». Pareil pour le temps annonçant « Élection locale de septembre », ce que le PPACI et le PDCI ont décidé. Avant que la une de le nouveau réveil ne s'interroge, municipal et régional du 2 septembre, la bataille stratégique des trois grands, ou le 2 contre 1. Pour terminer, des unes nous font faire aussi un focus sur l'ex-président Gbagbo, entre autres soirs info qui indique processus de réconciliation nationale. Ouattara décide d'honorer rendement Gbagbo, ainsi que la nouvelle alliance titrant. Quatrième pont, Ouattara va-t-il immortaliser Gbagbo? Les révélations d'un journal français. Quand l'Inter, de son côté, apprend, après la crise post-électorale 2010-2011, ce que Ouattara veut faire de l'ex-résidence de Gbagbo. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous, Francis Cassie, pour cette titra. Et je rappelle que vous serez encore des nôtres dans l'édition de 8h pour le même exercice. Dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction, élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Les partis politiques publient progressivement leur liste de candidats, notamment le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, le Parti des peuples africains PPACI et récemment le PDCI RDA. Le constat qui se dégage, c'est que les femmes y sont très faiblement représentées. Pour analyser la question, Carlos Condé a interrogé Koulibaly Ali Pélibien Gislain, sociologue spécialiste des questions de genre, dans cet entretien que je vous invite à suivre maintenant.
Gislain Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, deux partis politiques de la scène ivoirienne ont sorti de la liste de leurs candidats pour les prochaines élections locales. Et oui. Le RHDP affiche 3% de candidates au régional, 10% au municipal. Le PPACI, 4,54% au régional et 10% au municipal. Qu'est-ce qui peut expliquer ces faibles taux?
Je voudrais dire que ces statistiques confirment la faible représentation des femmes dans la sphère politique, mais on pourrait expliquer ce faible taux par plusieurs facteurs.
Lesquels?
Notamment la violence contre les femmes en politique. Je pense que quand on regarde l'échiquier politique ivoirien, effectivement, les femmes candidates sont confrontées à la violence, à l'intimidation ou même au harcèlement sexuel pendant les campagnes. Je pense que ce sont des faits qui peuvent constituer des entraves sérieuses à la participation politique des femmes. Quand on parle de violences faites aux femmes, ne voyons pas seulement les violences physiques. Même si ces violences physiques ne sont pas toujours dénoncées, nous avons des violences psychologiques et des violences émotionnelles qui constituent véritablement des atteintes à la dignité de la femme et constituent des facteurs de blocage pour sa pleine participation en politique. Un autre élément, c'est que les partis politiques, en leur sein, n'ont justement pas cette sensibilité aux questions de genre. Parce que quand vous regardez l'architecture même de ces appareils politiques, les femmes existent dans ces partis politiques. Mais le constat que nous faisons, c'est que ces partis responsabilisent surtout les femmes dans la mobilisation. Lorsqu'il s'agit de mobiliser les électeurs sur le terrain, on fait confiance aux femmes. Mais lorsqu'il s'agit de permettre à ces femmes de jouer les premiers rôles, tout de suite, on mobilise les hommes. Parce qu'en réalité, ici, le pouvoir appartient aux hommes. Ce sont les hommes qui sont dans des positions de responsabilité et ce sont ces hommes-là qui peuvent leur permettre de gagner tout de suite les échéances électorales. Et donc, on fait confiance aux hommes parce que, justement, les femmes, malheureusement, rencontrent des difficultés dans leur positionnement dans certains postes de responsabilité. Et quand vous regardez le paysage politique ivoirien, malheureusement, les partis politiques ne font pas beaucoup confiance aux femmes lorsqu'ils lorsqu'il s'agit d'être des têtes de liste pour briguer des échéances électorales.
Alors la loi impose un quota de 30% de femmes qu'on doit avoir dans les assemblées élues. Est-ce qu'il faut rendre la loi un peu plus coercitive de sorte que la CEI puisse rejeter des listes qui ne respectent pas ces 30%?
Aujourd'hui, nous avons une loi portant amélioration de la représentativité des femmes au sein des assemblées élues. Ce sont les 30%. Mais malheureusement, lorsque vous avez cette loi, il faut arrimer la loi au code électoral. Et donc, une fois que la loi est arrimée au code électoral, on sensibilise tous les partis politiques, tous les appareils politiques, mais il faut mettre l'accent sur tout ce qui est sanction. Or, la loi n'est pas coercitive. Et donc, vous constaterez que les partis politiques, à ce niveau, ne changent pas leurs habitudes, encore moins leurs comportements, ou ce qui relève de l'amélioration ou de la promotion des femmes au sein de leur parti politique. Les partis politiques qui ne respecteraient pas doivent être sanctionnés, tout simplement.
Sanctionnés par quoi? Rejet de leur liste?
Oui, pour moi, il faut rejeter toutes les listes qui ne respectent pas les mesures prônées par cette loi de 30%.
Pour terminer, comment, en plus de la sanction, on peut pousser les femmes à s'intéresser à la politique?
Alors, nous pensons que les femmes elles-mêmes doivent comprendre qu'il faut maintenant passer à l'action. C'est un appel que je lance à toutes les femmes qui ont milité pendant de nombreuses années dans les partis politiques et qui ont mené des combats de haute lutte et surtout ont eu à poser des actions sur le terrain. Il faut que ces femmes puissent désormais s'affirmer en posant leur candidature. Et ces femmes doivent être encadrées, coachées, mentorées par des femmes qui ont déjà de l'expérience, mais par des hommes qui ont aussi de l'expérience. Il faut que la société civile se mobilise pour apporter un appui technique, un appui financier. Je veux parler des partenaires au développement. Il faut accompagner ces femmes. Malheureusement, on nous dira qu'il y a la discipline du parti. Oui, je comprends bien la philosophie ou la discipline du parti, mais il faut permettre à ces femmes de montrer justement leur génie politique en leur faisant confiance.
Koulibaly, Pélibien, Ghislain, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction. Et ce jour, Carlos Condé recevait pour vous Koulibaly Pélibien Ghislain. Il est sociologue spécialiste des questions de genre. Et c'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le FPI et le RHDP ont signé un accord de partenariat portant sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. C'était hier mardi 2 mai à Abidjan. Et puis discussion tripartite entre gouvernement, secteur privé, centrale syndicale sur la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels. Le Premier ministre a annoncé une augmentation de 9 à 18%. Eh bien, le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire nous a dit dans cette édition que les discussions se poursuivent. Et puis, dans l'actualité internationale, une dizaine de civils a été tué dans le nord-ouest du Bénin dans la nuit de lundi à mardi, des tueries perpétrées par des individus non encore identifiés. Merci de nous avoir suivis. La prochaine édition sur Radio de la Paix, c'est à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.